Et je donne la parole à son Excellence Monsieur Osman Mohamed Saleh, ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée.
Monsieur le Président,
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par me joindre aux intervenants précédents pour exprimer toute la sympathie de ma délégation aux familles, aux peuples et au gouvernement du Kenya à la suite de l'attentat terroriste qui a été commis contre le mall de Westgate à Nairobi. Cela fait maintenant deux générations que l'Érythrée a commencé à présenter des demandes à la présente Assemblée. Malheureusement, dans toutes ces instances, l'Assemblée a ignoré les demandes de l'Érythrée et a fermé ses portes. Malgré ses débours, l'Érythrée reste fermement convaincu que la promotion des droits et des intérêts des peuples et le respect mutuel au sein de la communauté des nations resteront précaires sans avoir un organe international qui défende la suprématie du droit et de la justice internationale. Notre choix, comme celui d'autres peuples, a donc toujours été et restera de chercher à renforcer les réformes par la voie des Nations Unies. En ne parlant que des difficultés que rencontrent le peuple et l'État d'Érythrée, on pourrait avoir la fausse impression d'une aberration dans un système des Nations Unies qui par ailleurs fonctionne. Mais la particularité de notre cas est d'autant plus frappante dans le contexte plus large de l'ONU affaiblie par des déficits chroniques. Mon message aujourd'hui portera essentiellement sur l'urgence qu'il y a à réformer l'Organisation des Nations Unies et à réparer les injustices commises contre le peuple érythréen ainsi que contre les peuples du monde. L'expérience négative accumulée au cours des 50 premières années d'existence de l'ONU, la paralysie et les difficultés rencontrées dans le contexte de la guerre froide dans un monde bipolarisé ont rendu plus nécessaire encore la réforme structurelle de l'ONU. Dans le cas de l'Érythrée, notre droit inaliénable à l'indépendance a été bafoué. Au début de la guerre froide, le pays n'étant qu'un simple pion sur l'échiquier de la rivalité stratégique entre les deux superpuissances. Notre lutte de libération a été réprimée par les deux superpuissances alternativement pour les mêmes raisons et au jeu de différentes alliances. Cette histoire est encore aujourd'hui trop fraîche dans nos esprits pour susciter quelque nostalgie que ce soit pour la guerre froide. Notre appel pour la réforme de l'ONU n'est donc pas motivé par le souhait de revenir à la configuration ancienne et bipolaire du passé pour remplacer l'ordre mondial unipolaire qui prévaut aujourd'hui. L'ONU aurait dû être réformée et revitalisée durant les 50 années de la guerre froide. La fin de la guerre froide a très certainement été le moment le plus opportun pour le faire. Il est clair cependant, rétrospectivement, que si ces réformes avaient eu lieu, les guerres et destructions qui ont survenu au cours des 20 dernières années auraient pu être évitées. Toutefois, les grandes puissances qui contrôlent l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que les différentes institutions et entités des Nations Unies et exercent une hégémonie partielle ont eu le sentiment, après 1991, qu'elles étaient plus à même encore d'asseoir et de consolider leur domination totale sur l'ONU. Et elles ont bloqué toute réforme de l'ONU et toute perspective de voir changer les choses en faveur de la prévalence de la paix et de la justice internationale. Au cours des 20 dernières années, nous avons été témoins de plusieurs choses. Le contrôle excessif des ressources mondiales et la création de sphères d'influence qui ont provoqué une plus grande instabilité au niveau international. L'utilisation de la force et de la contrainte comme instrument premier de contrôle des ressources mondiales, tout en empêchant à d'autres la possibilité d'acquérir des capacités militaires comparables. Le déploiement d'institutions financières internationales, y compris la Banque mondiale et le FMI, pour contrôler l'économie mondiale, ce qui a fait perdurer la crise financière mondiale avec des incidences fatales pour la majorité des peuples de la planète. L'utilisation des médias de masse et de centres culturels pour créer de fausses images et pour promouvoir des systèmes de valeurs décadents ainsi que pour intimider les peuples et diaboliser toute dissension. Et enfin, l'emploi de divers subterfuges pour contrôler directement ou indirectement tous les organes internationaux, continentaux, régionaux, gouvernementaux et non gouvernementaux. Et ces manifestations de l'ordre mondial actuel sont corroborées au-delà de l'analyse abstraite par des cas concrets nombreux et des exemples que l'on peut tirer d'événements, d'endroits ou d'époques particulières. C'est pourquoi il faut, au XXIe siècle, revitaliser l'ONU de façon à transcender un ordre mondial qui serait bipolaire ou unipolaire, en faveur d'un ordre mondial fermement raciné dans la suprématie du droit et de la justice internationale. Monsieur le Président, comme je le disais, l'Érythrée, comme les autres États africains nés de l'époque coloniale, aurait dû accéder à l'indépendance et à la souveraineté à l'occasion du processus de décolonisation qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Les droits nationaux inaliénables du peuple érythréen ont cependant été négligés au vu des intérêts stratégiques des États-Unis qui s'étaient dégagés de la mêlée comme puissance victorieuse. L'Érythrée a donc été est resté un pays colonisé par procuration. Le peuple de l'Érythrée a continué à subir le joug colonial pendant encore presque 40 ans sous des régimes successifs qui ont été appuyés alternativement par les États-Unis pendant 23 ans, puis par l'ex-Union soviétique pendant les 17 années qui ont suivi. Dans ces conditions, le peuple érythréen a dû se battre pour sa libération et accepter de lourds sacrifices avant de parvenir à l'indépendance en 1991. Cette vérité historique, assortie à quelques phénomènes similaires, illustre les périls d'un ordre mondial fondé sur la rivalité de superpuissances en concurrence. Cela illustre aussi la nécessité et l'urgence de mettre en place une ONU efficace. Le peuple érythréen n'a été ni compensé pour les souffrances subies, ni bénéficié d'un répit dans les années qui ont suivi, alors qu'il s'embarquait sur la voie ardue de la reconstruction du pays déchiré par la guerre. L'Érythrée est devenue un pion sur l'échiquier plus large de la Corne de l'Afrique et du Moyen-Orient, et a souffert et souffre depuis 20 ans de politiques injustes, notamment de conflits frontaliers qui n'ont aucune justification politique ou juridique et qui n'avaient jamais été soulevés avant l'indépendance de l'Érythrée en 1991. Et ces conflits frontaliers ont été fomentés pour garder l'Érythrée prisonnier de crise en spirale. bien que la commission chargée des frontières ait rendu une décision finale et contraignante en 2002, le conflit frontalier qui a surgi a continué de couver pendant 11 ans du fait de l'obstructivisme de l'administration américaine. Le peuple érythréen a aussi été assujetti à une campagne de traite des êtres humains et de mesures illicites visant à saper la croissance et le développement économique, ainsi qu'à des campagnes de diabolisation diplomatique. Allant encore plus loin, les représentants des États-Unis ont imposé des sanctions illégales contre l'Érythrée en 2009 par le truchement du Conseil de sécurité des Nations Unies. 4 ans plus tard, ils insistent pour maintenir ces sanctions malgré l'absence de preuves ou de justifications et en se fondant sur des « rapports » entre guillemets largement discrédités du groupe de suivi. Au-delà de l'Érythrée, ces mêmes approches et politiques ont aggravé les crises et sapé davantage encore la stabilité, le développement et la coopération en Somalie et dans d'autres parties de la Corne de l'Afrique. Malgré cette hostilité et malgré les difficultés énormes qu'ils rencontrent, le peuple et le gouvernement de l'Érythrée ont continué à donner la priorité à leurs efforts de développement et à l'amélioration des conditions de vie de la population et ont travaillé systématiquement à œuvrer systématiquement à apporter leur modeste contribution à la paix et à la stabilité dans la région, y compris en combattant le terrorisme et la piraterie. Et ces réalisations, en dépit des difficultés rencontrées, ont été remarquables, même si elles sont restées bien en deçà de leurs aspirations. Pour l'avenir, le peuple et le gouvernement de l'Érythrée sont prêts à œuvrer main dans la main avec nos partenaires régionaux et internationaux, dont l'ONU, pour renforcer les perspectives de paix, de stabilité et d'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique et pour édifier un monde plus juste. Monsieur le Président, les agressions commises contre le peuple érythréen et contre d'autres peuples au cours des 20 dernières années témoignent de la persistance d'un ordre mondial injuste et de l'absence d'une ONU forte et représentative. Et pourtant, les signes indicateurs de l'arrivée d'une ère nouvelle sont bien là. Dans ce contexte, je voudrais ajouter la voix du peuple érythréen à d'autres voix dans le monde pour inviter instamment l'Assemblée générale des Nations unies à maintenir cette lueur d'espoir à l'occasion de la présente session et à adopter, en temps voulu, des résolutions visant à réformer de façon fondamentale l'Organisation des Nations unies. Le fait est que cette auguste assemblée a des obligations et responsabilités juridiques, morales et historiques qui lui étaient confiées par les peuples du monde et qu'elle ne peut ignorer. En conclusion, j'invite instamment les Nations unies à adopter des résolutions pragmatiques qui soient en rapport avec ses responsabilités juridiques, politiques et morales afin de 1. Défendre la primauté du droit, 2. Mettre un terme à l'invasion de nos territoires souverains, 3. Lever les sanctions illégales et préjudiciables contre l'Érythrée, 4. Mettre un terme aux interventions qui mettent en danger la paix et la stabilité de tous les peuples de la Corne de l'Afrique, et enfin 5. Dissuader tous les actes qui sont porteurs de crises, de pertes de vies humaines et de destruction. Je vous remercie, Monsieur le Président.